France Culture.
La conversation scientifique par Étienne Klein. Aujourd'hui, d'où vient que le fermenté a désormais la cote ? La fermentation est le processus utilisé depuis fort longtemps qui consiste à stabiliser les éléments tout en faisant naître de nouvelles saveurs grâce au développement de micro-organismes tels que les levures, les bactéries ou les champignons. Les produits fermentés qui en résultent n'ont pas toujours eu bonne presse, notamment parce qu'on ne les situe jamais bien loin du moisi. On leur a même trouvé de lugubres parfums de mort. Mais aujourd'hui, ils se voient attribuer de nouvelles vertus, et cela se constate au travers d'au moins quatre tendances. La première est qu'on les promeut un peu partout, jusque dans la cosmétique. La deuxième est que chacun d'entre nous est invité à prendre grand soin de son précieux microbiote intestinal. La troisième est qu'il existe désormais des fêtes de la fermentation. La quatrième est que des penseurs en viennent à fonder une vision positive du pourri. Question pour notre conversation scientifique, comment expliquer pareil retournement ? Qu'a-t-il bien pu se passer dans le champ des idées ? Si je devais y répondre seul, je serais bien obligé de donner ma langue au chat Schrödinger et vous seriez déçus. Mais heureusement, je suis en compagnie d'Anne-Sophie Moreau. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes philosophe et journaliste, rédactrice en chef du web de Philosophie Magazine et vous avez publié il y a quelques mois Fermentation, au pluriel, aux éditions du Seuil. Vous m'accorderez que le lien entre philosophie et fermentation n'est pas direct, même si la fermentation peut aussi concerner le champ des idées. D'ailleurs, à ce propos, j'ai vu que le 25 janvier 1770, Voltaire a écrit à D'Alembert une lettre qui contient cette phrase « Avez-vous lu, mon cher ami, un ouvrage intitulé « Dialogue sur le commerce des blés » Il excite ici une grande fermentation. »
Oui.
Que veut dire le mot « fermentation » dans cette phrase ?
Oui. Alors, ce qui est passionnant et fascinant avec le terme de fermentation, c'est que c'est à la fois, ça désigne à la fois un processus naturel, on va dire, ou en tout cas un processus concret, mais c'est aussi un terme qui est employé de manière métaphorique, qui porte une symbolique très forte. C'est pour cela que le thème, à la fois le sujet concret de la fermentation, son regain dans la société, mais aussi sa portée symbolique m'a intéressé. Et dans le texte que vous citez de Voltaire, ce que l'on entend, c'est que c'est la fermentation des idées, la fermentation, on pourrait dire même pré-révolutionnaire. Pour Hegel, par exemple, parle d'une pensée à l'état de fermentation, et il dit ça d'ailleurs de manière un peu péjorative, c'est-à-dire que la pensée à l'état de fermentation, c'est la pensée
qui n'est pas mûre,
qui n'énonce pas de concepts précis, qui n'est pas encore capable de s'arrêter sur une thèse, sur une position affirmée, mais qui voilà bouillonne. Hegel lui reproche d'être imprécise. Lui, il lui préfère voilà la dialectique, les oppositions franches. Mais l'on pourrait voir aussi, dans la pensée à l'état de fermentation, les prémices d'un renouveau de la pensée. C'est-à-dire que lorsqu'on parle, par exemple, des ferments de la Révolution, lorsqu'on parle de l'état de fermentation des esprits dans lequel se retrouve une société avant qu'une révolution éclate et avant, finalement, que le futur modèle de régime du gouvernement éclose, eh bien, on pourrait se dire aussi que ce sont ces moments, en fait, où finalement on assiste à la dissolution des catégories de pensée qui régnaient jusque-là, de la même manière que dans la fermentation, il y a une forme de dissolution des éléments, de changement, d'altération. Eh bien, on pourrait se dire que c'est à ce moment-là que l'ordre social est brassé, l'ordre social ou bien tout simplement l'ordre des idées, voilà les représentations qu'on se faisait, et que c'est grâce à ce processus de fermentation qu'accouchent peu à peu les idées de demain.
Alors si on en vient au processus lui-même, il existe plusieurs sortes de fermentation. Il y a notamment la fermentation éthylique qui produit de l'éthanol, la fermentation lactique qui produit de l'acide lactique. Donc en gros, les molécules issues de la fermentation sont généralement des acides ou des alcools, plus du dihydrogène, H2, et du gaz carbonique, CO2. Alors à propos d'alcool, est-ce que j'ai le droit de dire que c'est un peu grâce à lui je veux dire grâce aux suites d'une soirée qu'on pourrait qualifier d'excessive, que vous avez rencontré la question de la fermentation, ou plutôt qu'elle vous a croisé au détour d'un aéroport.
Oui, en effet. Alors oui, alors on connaît effectivement la fermentation alcoolique. En France, on ne va pas apprendre aux gens ce qu'est la fermentation. Et la fermentation non alcoolique est pratiquée depuis très longtemps avec des produits traditionnels comme allant du yaourt jusqu'au saucisson. Voilà. Donc il y a énormément de types de fermentation des aliments et des boissons. Et effectivement, moi, je me suis intéressée au sujet de la fermentation alors que je revenais d'un week-end un peu trop arrosé à Berlin, où je vivais alors. Et à l'aéroport, j'avais été frappée par le fait que, à la buvette, on proposait non plus, comme avant, vous voyez, du Coca, du Fanta ou des grandes marques comme ça, mais du kombucha. Le kombucha, qui est une boisson fermentée, préparée à partir d'une symbiose de bactéries et de levures. Et ce petit détail, qui peut paraître parfaitement anodin à beaucoup, m'a interpellée parce que je me suis demandé pourquoi est-ce qu'on nous proposait ce qui était vendu comme une boisson vivante sur l'étiquette dans un lieu aussi aseptisé qu'un aéroport, voilà, dans lequel, bon, a priori, il y a assez peu de vie qui est autorisée. Voilà, ce sont des surfaces planes, tout est très, très aseptisé, très hygiéniste dans un aéroport. Et il se trouve qu'en parallèle, j'étais en train de discuter par message avec un ami qui travaillait alors pour la mairie de Paris à généraliser la pratique du compost dans la ville. Et ces deux micro-événements
m'ont
fait résonance. J'ai opéré un rapprochement et je me suis dit, qu'est-ce qui fait que aujourd'hui nous cherchons finalement à retrouver des formes de vie qu'on pouvait considérer comme dégoûtante par le passé, voilà, une alliance de bactéries et de levures, donc des microbes, finalement. Pourquoi est-ce qu'on essaye d'ingérer des microbes pour raviver nos entrailles, on va reparler sans doute plus tard des bénéfices pour le microbiote, donc pour nos populations microbiennes, du fait de boire des boissons fermentées. Donc pourquoi est-ce qu'on essaye à la fois de raviver nos entrailles et aussi de réintégrer des formes de vie considérées autrefois comme dégoûtantes, là pour le coup non plus la fermentation, mais véritablement la décomposition du compost dans les artères d'une ville aussi minérale.
Mais est-ce qu'on a raison, Anne-Sophie Moreau, de dire que c'est une boisson vivante? Est-ce que c'est pas exagéré? D'ailleurs, ça pourrait être un terme répulsif.
Oui, bien sûr, bien sûr. Après tout, l'industrie agroalimentaire a tout fait pour qu'on ne soit plus en train de manger ou de boire des choses vivantes. Voilà, si vous avez des asticots qui se promènent dans votre fromage au supermarché, a priori, c'est que le fromage est à jeter. Or, on se rend compte qu'il y a un regain d'intérêt pour une nourriture moins aseptisée. Aux États-Unis, par exemple, il y a des gens qui militent pour le droit à manger et à produire soi-même des produits au lait cru, des fromages, où il y a des gens qui boivent du lait cru. Et de manière générale, dans tout l'intérêt qui renaît pour la fermentation, parce qu'encore une fois, on fait fermenter des aliments depuis la nuit des temps. Mais disons que là, il y a un intérêt assumé et conscient chez certaines personnes qui consistent à vouloir soit acheter des produits fermentés, soit les préparer chez soi pour finalement retrouver des formes d'alimentation qui ne soient pas aseptisées, qui ne soient pas dépourvues de vie. Et il me semble que ça renvoie à un sentiment très profond dans notre société qui est que nous vivons dans un monde finalement
périssable.
Oui, ou en tout cas, alors peut-être pas exactement, peut-être au contraire pas assez périssable. C'est-à-dire que nous vivons dans un monde qui a perdu toute vie. Voilà, nous sommes.
Mais qui dure.
Nous sommes entourés. Voilà, nous sommes des Homo faber au sens d'Arendt. Nous avons produit des éléments qui durent autour de nous, des immeubles qui sont fixes. Nous avons tout construit en béton autour de nous. Nous mangeons des aliments qui ressemblent de plus en plus à du plastique. Nous avons l'impression que tout est dépourvu de vie, et donc nous cherchons à raviver tout cela. Et dans ce livre, je m'intéresse à la fois. En fait, c'est pas vraiment un livre sur la fermentation en soi alimentaire. C'est-à-dire que je m'intéresse à la fois au fait que les gens se remettent à préparer du kéfir, du pain au levain, etc., des légumes en bocaux. Mais je m'intéresse aussi au fait que il y a un regain d'intérêt pour les micro-organismes en général dans tout un tas de domaines et tout un tas de pans de la société socialement très différents. C'est-à-dire qu'on a à la fois des gens qui font du kéfir chez eux, mais aussi des start-up qui essayent de développer des succédanés de viande ou de produits laitiers à partir de bactéries ou de champignons. Il y a des designers qui font des meubles à partir de mycélium, la partie souterraine des champignons, ou à partir de bactéries.
Vous dites que ces start-up n'auraient pas eu de succès il y a 40 ans. L'idée ne serait pas advenue.
Alors, je pense qu'on s'en serait méfié, ou en tout cas, on se serait demandé pourquoi remplacer le béton par des levures ou des champignons. Donc,
cette petite aventure à l'aéroport de Berlin vous a amené bien loin. Vous avez fait une enquête sur le terrain, mais aussi une enquête philosophique.
Oui.
Vous avez notamment fréquenté des fêtes de la fermentation, dont j'ai appris l'existence en lisant votre livre.
On y fait quoi
dans ces fêtes et on y voit qui?
Alors il y a effectivement des festivals, des fêtes de la fermentation dans le monde entier, ou en tout cas au moins, je dirais plus précisément, dans les pays industrialisés. C'est ça qui est intéressant et paradoxal, c'est-à-dire que voilà, vous avez des festivals, que ce soit aux États-Unis, au Canada, en Suisse, en Allemagne, en France, un peu partout, au Japon. Où les gens produisent du produit fermenté, voilà, font, alors il y a beaucoup de vin nature, de pain au levain, de produits comme ça. Et ce qui est intéressant, c'est que ça apparaît dans des pays qui a priori n'ont pas besoin de faire fermenter les aliments. Il faut rappeler que la fermentation, c'est un processus de conservation au départ. Donc on pourrait se demander pourquoi les gens font cela, puisque voilà, nous, après tout, nous avons des frigos, des boîtes de conserve. Pourquoi se mettre à faire fermenter les aliments? Et il me semble que ça relève de plusieurs besoins. D'une part, je pense qu'il y a une peur renouvelée d'un monde de plus en plus hostile. Hein. C'est-à-dire que là, ça fait vraiment quelques années que les gens entendent parler de la crise écologique, ont peur de se retrouver du jour au lendemain sans rien à manger. Je pense que c'est une peur très ancrée. La crise du Covid est venue accélérer tout cela. Hein. On s'est dit que...
On y reviendra.
Voilà, on s'est dit qu'il suffisait d'un pangolin dans la machine pour que tout le système s'écroule. Donc il y a une volonté de vivre en autonomie et donc de pouvoir faire fermenter ses légumes pour pouvoir manger toute l'année des produits qui conservent les vitamines, hein, parce que la fermentation permet aussi de conserver, voire d'enrichir les aliments d'un point de vue nutritif. Et je pense que plus généralement, il y a un rejet aussi tout simplement d'un monde trop aseptisé, trop marqué par l'hygiène. Je pense que c'est pas un hasard si c'est aux États-Unis qu'on trouve énormément de festivals de fermentation, voilà, où les gens finalement refusent un système agroalimentaire qui est considéré comme étant de plus en plus aseptisé et dans un pays très hygiéniste évidemment.
Est-ce que vous savez situer, Anne-Sophie Moreau, la frontière qui sépare le fermenté du pourri?
Alors ça, c'est une très bonne question que vous posez. Alors c'est pas évident de répondre à la question parce que
Il y a aussi le moisi dans
bien sûr. Alors dans les trois cas, vous avez une altération. Alors Aristote dirait que c'est un changement de qualité, voilà. C'est-à-dire que vous avez l'altération d'une substance par l'intermédiaire, ou en tout cas par l'introduction d'un micro-organisme, d'un ou de plusieurs, en général des milliers, voire des milliards de micro-organismes vivants, hein, donc des bactéries, des levures, des micro-champignons, etc. Et alors, je dirais, en tout cas, en reprenant les mots, moi personnellement je ne suis pas scientifique, mais en reprenant les mots du biologiste Christophe Lavelle, il n'y a pas de différence ontologique.
C'est un continuum, en fait.
Entre la fermentation et la décomposition. C'est-à-dire que, dans tous les cas, vous avez l'intervention d'organismes, voilà, qui vont dégrader, qui vont altérer la matière. Et la question de savoir si cette altération est une dégradation ou bien, au contraire, une amélioration, finalement, elle relève de notre œil d'humain. C'est-à-dire que notre vision de ce qui est fermenté ou de ce qui est pourri est profondément culturelle. Et d'ailleurs, c'est intéressant parce que ce qui est intéressant, c'est de noter que souvent, le fermenté de l'autre est pourri.
Et le pourri pour soi.
Et notre pourri. C'est-à-dire que lorsqu'on voit voilà, les poissons fermentés scandinaves ou bien le natto japonais, on se dit « Ah, mais ça a une odeur atroce, on dirait de la putréfaction. » Et la plupart des étrangers qui découvrent nos fromages ont la même pensée voilà, quant à nos propres productions. Donc la fermentation, c'est une valeur culturelle.
Est-ce que Pasteur avait raison, vous le citez dans votre livre, de définir la fermentation comme la vie sans l'air, sans air?
Oui.
Est-ce qu'il avait raison? Est-ce que c'est comme ça qu'on peut l'avoir aujourd'hui?
Oui, alors c'est une... C'est une
dans le fait qu'il n'y a pas d'oxygène qui est mis en jeu dans la réaction chimique.
Oui, alors c'est une bonne question, parce que je pense que les adeptes de la fermentation vous diront que si votre bocal est parfaitement fermé, il n'y aura probablement pas de fermentation. Donc je pense qu'il y a tout de même un petit peu d'air tout de même dans la fermentation. Et en plus de ça, souvent la fermentation produit de l'air. Voilà, il y a des bulles qui se forment, il y a du gaz qui est rejeté. Mais en tout cas là où il avait raison, c'est qu'il s'agit en tout cas d'une altération dans un milieu clos. Et je pense que c'est ce qui fascine aussi, c'est le fait qu'on puisse laisser des aliments dans un coin et que quelque chose change. Une transformation profonde s'opère, voilà, sans qu'on ajoute quoi que ce soit. Et pourquoi est-ce que cette privation d'air était importante, ou en tout cas pourquoi est-ce que Pasteur voulait montrer qu'il n'y avait pas d'air, parce que je pense que historiquement c'est ce qui est le plus intéressant. C'est parce qu'à l'époque, il faut savoir déjà que pendant très longtemps on pratiquait la fermentation, mais on ne savait pas comprenait pas comment elle fonctionnait. Donc elle était considérée comme mystérieuse, voire même comme dangereuse. Il y avait un rapport très ambigu au fromage, notamment. On se disait, la théorie des humeurs, vous déconseillez d'ingérer trop de fromage parce que vous risquez finalement aussi de provoquer une putréfaction intérieure.
Oui, Zola qui définit la fermentation, enfin le fromage, comme des blessures ouverte, je crois.
Non, oui, alors
je le cite, oui,
alors
exactement.
Je sais, oui, alors Zola,
j'ai retrouvé la citation.
Zola, il critique la société. Enfin, il y a toute une littérature qui consiste à critiquer la société en fermentation, en putréfaction, la société moisie.
Il compare les croûtes de fromage à des blessures mal fermées.
Oui.
Et vous citez un anthropologue italien, Piero Camporesi, qui dit ceci: ingurgiter du fromage était autrefois le meilleur moyen de faire du ventre une pépinière de lombriques. Le terrain d'élection d'Ascari, bon à engraisser des vermisseaux repoussants, qui à leur tour allaient faire ripaille de la chair des stupides éleveurs.
Voilà.
Ça classe l'affaire.
Voilà, donc il y avait une grande méfiance par rapport à la fermentation. Mais en même temps, on l'a pratiquée très longtemps. D'ailleurs, il y a des choses comme le kéfir, par exemple, qui est une boisson fermentée. Elle se fait à partir de ce qu'on appelle des grains de kéfir, mais ils ne sont pas des grains, hein, qui sont des symbioses de micro-organismes et qui se transmettent de génération en génération depuis la nuit des temps. C'est-à-dire que personne n'est capable de dire à quel moment est-ce qu'on a commencer à fabriquer du kéfir. Donc c'est un processus ancestral. Pour autant, pendant très longtemps, on n'a pas su comment ça fonctionnait. Et Pasteur, en fait, a été le premier à identifier, finalement, non pas seulement ce qu'était la fermentation, mais à découvrir, entre guillemets, les bactéries. C'est-à-dire que pendant très longtemps, il y avait eu ce penseur qui avait identifié les animalcules au microscope bien avant, mais ça n'avait pas donné lieu à des recherches plus poussées. Et c'est vraiment avec les recherches de Pasteur qu'on a découvert quel rôle avaient les bactéries, donc à la fois un rôle positif puisqu'elles étaient capables de nous permettre de produire, par exemple, le vin. Pasteur a étudié la fermentation vinicole, mais aussi c'est à ce moment-là qu'il s'est rendu compte et qu'il a réussi à prouver que c'était des agents pathogènes, des bactéries extérieures qui apportaient les maladies. Ce qui était quelque chose de très important puisqu'il s'agissait de contrer. C'est pour cette longue réponse pour répondre à votre question sur la vie sans air. C'était pour contrer la théorie selon laquelle les maladies étaient apportées par ce qu'on appelait les miasmes, qui étaient censés...
La fameuse théorie des miasmes.
La fameuse théorie des miasmes, qui, selon laquelle les maladies étaient transmises par le mauvais air. Voilà. C'est-à-dire que lorsque tout le monde tombait malade dans un hôpital...
On ouvrait les fenêtres.
On ouvrait les fenêtres d'abord, et ensuite, parfois, on changeait même d'hôpital, on faisait déménager tout le monde en se disant, il y a une mauvaise atmosphère dans cet hôpital, et c'est pour cela que les femmes meurent en couche. Et Pasteur, il a réussi à montrer, avec d'autres, hein, Semmelweis, Koch, enfin, bon, il y a eu beaucoup de scientifiques à la fin du 19e siècle, début du 20e siècle, ils se sont intéressés à tout ça, ils ont réussi à montrer que non, que beaucoup de maladies se transmettaient, notamment les infections se transmettaient par des bactéries, donc par exemple par le contact des mains, et c'est à ce moment-là qu'on a pu enfin convaincre par exemple les médecins de se laver les mains avant d'aller voir les parturientes, ce qui a permis de réduire fortement la mortalité en couche et de lutter contre nombre de maladies. Donc c'est pour cela que Pasteur, je pense, était obsédé par cette idée de la vie sans air. C'était pour dire, voilà, nous n'avons pas, enfin les maladies ne se transmettent pas forcément par l'air, et les bactéries, elles peuvent opérer un travail souterrain, voilà, ou en tout cas dans un espace clos. Il avait besoin de montrer que ça pouvait se passer dans un laboratoire et non pas seulement dans un lieu soumis au vent.
Durant votre enquête, Anne-Sophie Moreau, vous avez croisé de nombreuses personnes que vous appelez des adeptes du moisi. Donc elles vous intéressent manifestement parce que vous leur avez consacré un livre. Est-ce que ce sont des personnes qui vous inquiètent? Est-ce qu'elles vous amusent? Est-ce qu'elles vous intriguent? Est-ce qu'elles vous séduisent?
Quel
est le bilan?
Les quatre, je dirais, parce que je dirais que le premier mouvement, que très positif, il consiste finalement à rompre avec cette tradition hygiéniste. finalement qui règne depuis les découvertes de Pasteur. En fait, c'est-à-dire que Pasteur, voilà, malgré lui, il a découvert le rôle d'agent pathogène des bactéries. Et donc, malgré ces découvertes aussi sur la fermentation, ce qu'on a surtout retenu, c'est que les bactéries étaient mauvaises, étaient dangereuses. Et donc, on a généralement...
Toutes dangereuses.
En tout cas, on a retenu cela. Mmh. Et donc, pendant des décennies, on s'est appliqué à maintenir une hygiène stricte, etc. Or, des découvertes récentes ont permis de montrer que la santé reposait plutôt sur ce que le biologiste Marc-André Sellos appelle une saleté propre, c'est-à-dire que c'est plutôt un équilibre qui vous maintient en bonne santé. C'est le fait d'avoir à la fois... C'est le fait d'avoir des bonnes bactéries dans votre microbiote intestinal, dans vos microbiotes intestinal, vaginal, etc. C'est-à-dire que ce sont les populations de bactéries en vous qui vous aident, au contraire, à lutter contre les agents pathogènes. Donc, il y a eu énormément de découvertes scientifiques autour de cela. On sait maintenant qu'un déficit en bactéries, par exemple, est corrélé avec certaines maladies, des maladies intestinales, bien sûr, mais aussi des maladies comme Alzheimer, comme des maladies comme la dépression. Donc, voilà. Donc, il y a énormément de découvertes de ce côté-là. Et je dirais que tous les nouveaux amis des bactéries ont, pour le coup, le don de redécouvrir, on va dire, le potentiel de tout ce qu'on considérait comme sale avant, c'est-à-dire des micro-organismes qui, en réalité, non seulement ne sont pas néfastes, mais sont même indispensables à notre survie. Voilà. Et donc,
les bactéries nous protègent.
Voilà. Et donc ça, je pense que c'est un mouvement très, très positif. Ce qui me semble aussi très positif, c'est le fait qu'on soit capable aussi, d'un point de vue écologique et environnemental, de s'intéresser à des micro-organismes, voire même de développer une forme d'empathie pour eux. C'est-à-dire que là, on s'intéresse de plus en plus, en tout cas, les militants de la fermentation, puisqu'il y a plein de gens qui font de la fermentation chez eux, mais il y a aussi beaucoup de gens qui, aux États-Unis notamment, qui développent un discours militant sur la fermentation, qui considèrent que pratiquer la fermentation, c'est aussi soutenir la biodiversité du vivant, voilà, qui insiste sur le fait qu'il y a des milliards de bactéries sur Terre et qu'il faut participer à leur diversité.
Elles font partie de la biodiversité.
Bien sûr, non seulement elles font partie de la biodiversité, mais elles la garantissent. On sait aujourd'hui que l'équilibre climatique de la Terre est soutenu par cette diversité microbienne. On sait que rien ne pousse dans les sols sans la diversité des bactéries, sans ce qu'on appelle le microbiote des sols. Voilà, c'est-à-dire qu'on a un microbiote, on a une santé de nos entrailles, mais cette santé est aussi liée à la santé des sols. Donc, si vous voulez, toute cette approche holistique et environnementale, qui est loin d'être ésotérique, elle est aussi... primordial aujourd'hui parce qu'on se rend compte. Alors, ce sont les théories dont on s'est un peu moqué de James Lovelock autour de, vous voyez, l'idée de Gaïa, d'une terre qui serait comme une sorte de super organisme. Alors, avec des accents parfois un peu ésotériques dont on a pu se moquer, mais qui repose sur des théories très sérieuses de Lynn Margulis notamment, qui est une biologiste qui a montré que l'évolution s'était faite non pas par élimination ou par compétition, mais par fusion. Par fusion du vivant, c'est elle qui a montré ce qu'on appelle la théorie endosymbiotique des cellules. Elle a montré, par exemple, le fait que à l'intérieur de nos cellules mêmes, nous avons ce qu'on appelle des mitochondries, qui seraient des restes de bactéries en fait qui auraient fusionné avec des cellules. Voilà, au tout début de l'évolution et de l'apparition de la vie. Donc, si vous voulez, on sait aujourd'hui que les bactéries, elles jouent un rôle fondamental dans le développement de la vie sur Terre. Et il me semble que chez les gens qui pratiquent de la fermentation, et d'ailleurs ça se sent dans leur discours, il y a une volonté finalement de cultiver la matrice de la vie. Voilà, c'est-à-dire que d'ailleurs les gens souvent parlent de leur levain ou de leur grain de kéfir un petit peu comme si c'était des animaux domestiques ou des membres de leur famille. Vous voyez, ils leur donnent un nom. Il y a des gens qui, par exemple, dans les pays anglophones, il y a des sourdough-sitters, c'est-à-dire des babysitters pour levain. Vous voyez, vous pouvez employer quelqu'un pour qu'il vienne nourrir votre levain à votre place. Et en fait, on se rend compte que lorsque les gens parlent de leur pratique de fermentation, il y a finalement une volonté de cultiver une matrice de la vie, en fait. On pourrait dire une sorte de soupe primordiale pour reprendre cette théorie sur l'apparition de la vie sur Terre qui serait née finalement dans les profondeurs de l'eau en fait, là où dans l'humidité, voilà, dans la macération se seraient développées les toutes premières formes de vie. Et donc il y a un côté très positif, je dirais, dans ce regain d'intérêt pour les micro-organismes qui est aussi étayé par de nombreuses
découvertes. C'est quand même une révolution, Anne-Sophie Moreau, parce que je connais pas votre âge, mais juste oui. J'estime qu'il est proche d'une valeur telle que vous avez connu le Biactol.
Oui, bien sûr.
Alors, qu'est-ce que c'était le Biactol? Vous l'avez vraiment connu, je crois?
Oui, j'en parle.
Et qu'est-ce qui fait qu'on est passé du Biactol à cette conception de la peau humaine comme étant une sorte de roquefort très mince?
Oui, effectivement, au début d'un chapitre, je reviens sur les publicités qui peuplaient les télévisions lorsque j'étais adolescente, où on nous vendait, par exemple, il y avait cette fameuse pub pour le Biactol, qui était un produit qui était destiné à décaper notre peau pour en déloger les indésirables qui étaient ces bactéries. Voilà, il y avait des plans de coupe comme ça, on voyait que le produit venait chercher les bactéries au fond des pores, voilà, et venait assainir, assécher, nous débarrasser finalement de tous ces indésirables. Et donc voilà, c'était une vision d'horreur de se dire voilà, ma peau
est sale,
et surtout elle est peuplée d'intrus, d'étrangers qu'il faut absolument déloger, sans quoi on est dégoûtant. Et j'ai observé qu'il y avait un renversement dans les cosmétiques aujourd'hui, puisque aujourd'hui les marques de luxe ou non d'ailleurs proposent des crèmes à partir enrichies en pré ou en probiotiques, c'est-à-dire en bactéries ou en nourriture pour bactéries, pour le dire clairement. Et on vous incite à, alors voilà, je ne sais pas si vous employez beaucoup de cosmétiques, mais en tout cas les femmes sont...
Moi c'était avant.
En tout cas les femmes notamment sont encouragées à nourrir leur et à renforcer leur barrière cutanée. Ce qu'on appelle la barrière cutanée, en fait ce sont tout simplement toutes ces peuplades de micro-organismes qui vivent sur notre peau. Voilà, donc non seulement aujourd'hui on ne cherche plus à éradiquer ces intrus, mais nous, au contraire, nous cherchons à les cultiver. Voilà. Et ça, je pense que c'est un renversement de paradigme par rapport à ce qu'on considérait comme de l'hygiène lorsque j'ai...
Mais il y a aussi un renversement à propos des odeurs dont vous parlez. Depuis quand est-ce que les mauvaises odeurs sont-elles mauvaises?
Depuis quand est-ce que les mauvaises odeurs sentent mauvais?
Oui, parce qu'elles n'ont pas toujours senti mauvaises. Celles qu'on considère comme mauvaises n'ont pas été toujours considérées comme telles.
Oui, bien sûr. Alors il y avait la fameuse étude d'Alain Corbin, le miasme et la jonquille, qui avait montré que pendant longtemps, on ne se lavait pas. Ou en tout cas, on se lavait au Moyen-Âge, il y avait des bains, etc. Et ensuite, que des pratiques d'hygiène, finalement, s'étaient perdues parce qu'on avait peur. En fait, on considérait que le fait de se laver, le fait d'être en contact avec l'eau, ça rendait notre peau poreuse et donc, sous-entendu, ça nous exposait davantage aux maladies. Il y avait évidemment la terreur de la peste. Donc on avait cette idée selon laquelle...
L'eau était une menace.
L'eau était une menace, voilà, et elle était une menace parce qu'elle ouvrait les pores et que les pores risquaient d'être ouverts à... Alors aujourd'hui, on dirait les virus et les bactéries. À l'époque, on ne savait pas comment ça fonctionnait, mais il y avait déjà voilà, une forme d'instinct, une terreur d'être envahi, d'être pénétré par l'autrui qui est la maladie. Et effectivement, je dirais qu'aujourd'hui, on a été ensuite dans un renversement avec au contraire davantage d'hygiène, le Biactol, et maintenant...
On ne vend plus de Biactol, si?
Non, maintenant, vous ne trouverez plus de Biactol, mais au contraire, vous vous mettrez des crèmes avec des probiotiques pour éviter l'acné, justement.
Ou des crèmes quantiques.
Ouais.
Mais est-ce que le mouvement qui fait qu'il n'y a plus de Biactol est le même que celui qui fait qu'il n'y a plus de chlore dans les piscines? Est-ce que c'est la même tendance dans les deux cas?
Oui, effectivement. Par exemple, il y a énormément de recherches autour des bactéries pour utiliser au contraire les bactéries pour assainir des milieux. C'est-à-dire que voilà, il y a des expériences, par exemple, pour ne plus mettre de produits désinfectants dans les toilettes des aires d'autoroute. Vous voyez ces toilettes qui sont toujours extrêmement mauvais. Et maintenant, certaines start-up ou scientifiques proposent de remplacer ça par des préparations à partir de bactéries. C'est-à-dire que l'idée, c'est que finalement, les bonnes bactéries vont venir porter un équilibre qui va empêcher le développement des mauvaises. Et donc finalement, c'est comme si on modifiait totalement notre vision de l'hygiène pour proposer une hygiène qui serait bien plus un équilibre entre le bon et le mauvais, plutôt qu'une éradication de l'altérité.
Et tout à l'heure, Anne-Sophie Moreau, vous évoquiez l'idée que notre goût nouveau pour la fermentation pouvait résulter de notre sentiment que notre monde n'est pas... certains de pouvoir durer éternellement.
Oui.
Donc il y a une inquiétude de l'avenir. Et vous citez Brillat Savarin, donc le célèbre gastronome, philosophe également, qui en 1825 explique notre goût pour l'alcool par la peur que suscite la perspective de l'apocalypse.
Oui.
Il écrit « Je suis tenté de mettre l'appétence des liqueurs fermentées, qui n'est pas connue des animaux, à côté de l'inquiétude de l'avenir » qui leur est également étrangère. Et il rappelle que le passage d'une comète pourrait suffire à éliminer toute vie sur Terre. Et vous en déduisez que penser que la fin du monde est proche pourrait donner envie de se resservir une vodka.
Oui.
Est-ce que ça explique aussi ce goût que nous avons aujourd'hui pour tout ce qui est fermenté?
Oui et non, parce que justement, paradoxalement, effectivement, moi, mon premier mouvement spontané face à la pensée de la fin du monde serait, comme le suggère Bria Savarin, de m'abîmer dans l'ivresse pour ne pas y penser. Mais il me semble que les adeptes, et en tout cas les militants de la fermentation aujourd'hui, ont plutôt une approche qui consiste à vouloir au contraire purifier son organisme au maximum de substances considérées comme dangereuses, les pesticides, etc. Et d'ailleurs, c'est intéressant parce que c'est moins l'alcool qui plaît aux jeunes aujourd'hui. D'ailleurs, les jeunes boivent de moins en moins d'alcool. C'est un problème pour les producteurs de vin en France, on le sait. Mais au contraire, il y a une quête de produits fermentés considérés au contraire comme sains, qui au contraire ont éliminé toute forme d'alcool. Des boissons comme le kombucha que les jeunes en fait boivent au contraire pour ne pas boire d'alcool
et non pas après avoir bu de l'alcool comme vous.
et qui consiste en fait, alors c'était le kombucha, c'était traditionnellement on l'appelait boisson d'éternité, hein, et qui consiste au contraire à venir soigner votre microbiote pour vivre plus longuement. Ça c'était les découvertes d'Eli Metchnikoff qui bien avant Danone s'était intéressé aux bienfaits du yaourt bulgare et qui avait écrit tout un traité à l'époque pour soutenir l'idée selon laquelle le fait de manger fermenté permettait de vivre plus longtemps.
Oui, vous expliquez également, Anne-Sophie Moreau, que notre cerveau reçoit des informations de la part des micro-organismes qui constituent notre microbiote intestinal. Ces bactéries participent au fonctionnement du cerveau, l'informent, lui parlent d'une certaine façon. Et on pourrait dire que le cerveau et le ventre, bien qu'ils soient à une certaine distance l'un de l'autre, sont dynamiquement liés. Est-ce qu'il n'y a pas là une blessure narcissique,
oui,
de savoir qu'on est peuplé de bactéries?
Oui, bien sûr. Alors, on parle de deuxième cerveau, de plus en plus, lorsqu'on parle de l'influence du microbiote intestinal, digestif, sur nos états d'esprit. Effectivement, c'est assez abyssal de s'imaginer que quelque chose comme ce que les écrivains, les grands écrivains et poètes appelaient la mélancolie, puisse être provoqué par tout simplement une carence en telle ou telle bactérie. Vous voyez, il y a quelque chose d'assez perturbant, et c'est pour cela
une dépendance à laquelle on n'avait pas pensé.
Bien sûr, et c'est pour cela que je parle dans cet essai d'une quatrième blessure narcissique en faisant référence à Freud, hein, Freud qui considérait que l'humanité était passée par plusieurs blessures narcissiques, hein, le fait de découvrir que la Terre n'était pas en centre du monde avec Copernic. Voilà, le fait ensuite
Darwin.
De découvrir que nous n'étions qu'un produit de l'évolution, et le fait ensuite de découvrir, avec Freud bien sûr, le pouvoir de l'inconscient sur nos décisions. Et maintenant, c'est comme si nous avions finalement découvert une sorte d'inconscient microbien, en plus de tout cela, qui viendrait finalement nous détrôner venir apporter une énième blessure à notre orgueil, venant mettre à terre.
Mais est-ce que ça veut dire que des produits fermentés,
selon laquelle nous serions libres,
est-ce que ça veut dire que des produits fermentés pourraient guérir d'un tourment dépressif?
Alors, je pense qu'il est dangereux d'aller jusque-là aujourd'hui. J'ai une amie psychiatre qui m'a dit récemment, attention, lorsque tu passes dans les médias, ne suggère pas l'idée selon laquelle on pourrait se guérir de tel ou tel trouble en mangeant du yaourt. Effectivement, actuellement, les recherches de ce côté-là sont tout de même assez balbutiantes. Elles sont très encourageantes, mais elles sont balbutiantes. Ce qui est intéressant, c'est le fait que nous soyons en train de reconsidérer notre rapport au corps, c'est-à-dire que on a une vision, en fait, de la même manière, parce qu'en fait, on a toujours considéré le corps et l'esprit humain de la même manière qu'on a considéré la nature dans son ensemble et le cosmos. Et ce que je veux dire par là, c'est que pendant longtemps, on a considéré finalement que la nature fonctionnait en étant régie par un dieu qui serait un grand horloger, comme dirait Descartes. Voilà, quelqu'un qui ferait marcher la nature de manière mécanique. Aujourd'hui, on voit la nature de plus en plus finalement comme étant on va dire concocté ou soigné par un grand dieu fermenteur qui finalement n'a plus vraiment de pouvoir dessus et qui laisse tout cela grouiller en paix. Et de la même manière, nous considérons de plus en plus le fonctionnement de notre corps comme étant une sorte de grande symbiose entre bactéries et non plus comme une construction mécanique qu'on pourrait réparer seulement par la chirurgie ou bien en essayant de faire je ne sais pas des électrochocs on se dit qu'on ne peut plus réparer le corps mais qu'on ne peut qu'essayer de défendre ou en tout cas de faire en sorte
forme d'équilibre
que cet équilibre entre organismes se maintienne et cela je trouve ça assez fascinant c'est l'idée selon laquelle il n'y aurait pas d'espèce humaine finalement ou ni même d'individu mais que nous serions tous des holobiontes, pour reprendre une expression qui est employée par certains penseurs, c'est-à-dire qu'il serait en fait impossible de démêler en l'homme ce qui relève de l'homme, ce qui relève de la bactérie, parce qu'il y a des bactéries sans lesquelles des micro-organismes ou des champignons sans lesquels nous ne pourrions pas survivre et qui ne survivraient pas sans nous. C'est-à-dire que nous serions un petit peu comme le lichen, par exemple. Le lichen, c'est une symbiose entre plusieurs organismes. Il serait impossible de démêler tout cela.
Quand même que je vous avoue pourquoi j'ai posé la question du lien entre tourment dépressif et produits fermentés. Ben c'est tout simplement que tourment dépressif, c'est l'anagramme de produits fermentés.
C'est vrai.
Au pluriel.
Incroyable.
De même que le moisi, c'est le stoïcisme, c'est l'anagramme. Ou plutôt l'anagramme de le stoïcisme, c'est le moisi.
Mais alors, c'est très intéressant ce que vous dites sur cet anagramme sur le moisi.
C'est du hasard, hein.
Cet anagramme sur le moisi et le stoïcisme.
C'est Olivier Garcia qui les a trouvés.
Ah, incroyable. Alors, c'est très intéressant ce que vous dites parce qu'on peut en faire le commentaire. Alors, je parle pas particulièrement du stoïcisme dans le livre, mais disons qu'il y a un point commun. C'est-à-dire que, parce que vous me demandiez tout à l'heure, vous me disiez, ces gens qui pratiquent la fermentation, est-ce que vous les admirez, est-ce qu'ils vous inquiètent, etc. Et dans le livre, il y a aussi des passages dans lesquels je porte un point de vue plus critique ou en tout cas interrogateur sur ces pratiques, non pas pour dire qu'il ne faudrait pas faire fermenter des aliments, c'est très bien et c'est probablement très bon pour la santé, mais en tout cas je m'interroge sur la tendance au repli qu'implique cette nouvelle passion pour les légumes en bocaux, par exemple. Et j'explique que je suis allée pour je fréquentais par exemple les milieux néo-ruraux, vous voyez, où des amis à moi très anti-système, très décroissants passent leur temps à produire des légumes en bocaux, à faire du pain au levain, etc. Et je discutais avec une boulangère artisanale qui me disait, moi je n'écoute plus la radio parce que ça fait tourner la pâte. C'était à l'époque de la crise du Covid et elle me disait, sous-entendu, le monde extérieur est tellement hostile, les nouvelles sont mauvaises, je préfère m'en couper, je préfère finalement fermenter dans mon coin plutôt que de me confronter au monde. Et c'est quelque chose qu'on observe aussi. Je dirais que, à l'époque, Voltaire faisait dire à Candide, il faut cultiver son jardin. Je dirais qu'aujourd'hui, le nouveau mantra, ce serait, il faut faire fermenter ses légumes, dans son coin. Et je pense que cette tendance au retrait, pour le coup, m'inquiète un peu. C'est-à-dire, le lien avec le stoïcisme.
Oui, parce que le but, c'est pas de supprimer la famine dans le monde, du coup.
Non, voilà. Et le lien avec le stoïcisme, donc, ce serait finalement, je me concentre sur ce que je peux maîtriser, finalement bien peu. Voilà, je peux maîtriser mes quelques légumes dans mon bocal, je peux maîtriser la production de ma propre nourriture, mais finalement je ne me confronte plus au monde extérieur parce que celui-ci est hostile. Et je trouve là aussi une forme de fermeture par rapport à l'autre, qui n'est pas forcément voulue et consciente, hein, mais que l'on observe. D'ailleurs, il y a une initiative aussi au niveau national qui s'appelle Ferment du futur, qui est portée par l'État.
Ferment 2030.
Oui.
Quand j'entends ça, j'ai l'impression que ça va fermer en 2030.
et qui consiste à financer des recherches entre scientifiques et entreprises pour pouvoir développer la nourriture de demain à base de produits fermentés. Et l'idée, c'est de viser ce qu'on appelle la souveraineté alimentaire, sous-entendu, dans un monde en crise, dans un monde porté par les guerres, dans un contexte de durcissement terrible des relations internationales, nous devons finalement nous reconcentrer sur nos productions locales pour pouvoir survivre sans l'autre, puisqu'on ne peut plus compter dessus. Et je pense que cette tendance, qui est peut-être une tendance réaliste, hein, évidemment, elle a aussi quelque chose de dangereux.
Et vous dites aussi, Anne-Sophie Moreau, dans votre livre, que on a étudié, alors je crois que c'est l'INRAE, le microbiote de 100 000 Français.
Oui.
Et qu'est-ce qu'on a compris? Qu'est-ce qu'on a trouvé? Est-ce qu'on se distingue les uns des autres par nos entrailles?
Oui.
Est-ce que le microbiote nous singularise?
Oui, bien sûr. Alors, effectivement, il y a un lien très fort entre le microbiote et notre identité. À la fois notre identité, on va dire, nationale, ethnique ou en tout cas culturelle. En tout cas, je pense que c'est le but de ces recherches, c'est d'essayer d'établir les différences de microbiote entre différents pays.
C'est une sorte d'ADN, non ?
Oui, mais alors en sachant que toutes ces recherches, encore une fois, sont récentes, hein, donc je ne sais pas encore ce que l'INRAE va en conclure. Mais déjà d'une part, moi, ce qui me semble intéressant, c'est que les gens participent, voilà, et les gens envoient, enfin concrètement, des échantillons de leurs selles pour participer finalement à l'étude du microbiome humain. Et ce que je trouve fascinant, c'est le fait que finalement, c'est comme si on essayait de se définir aujourd'hui par nos entrailles. Pourquoi ? Parce que vous êtes, au fil de votre vie, le produit à la fois de votre naissance et à la fois de ce à quoi vous avez été exposé au long de votre vie. Donc vous avez le microbiote qui est hérité par exemple de votre mère à la naissance, mais ensuite qui est enrichi par le microbiote. Vous êtes confronté par les câlins que vous faites à un enfant par exemple. Vous lui transmettez votre microbiote et ce microbiote est évidemment enrichi par tout ce que vous mangez, tout ce à quoi vous êtes confronté, etc. Et d'ailleurs il n'y a rien de plus, on va dire, il n'y a rien de plus identitaire que les produits fermentés. Hein, lorsque vous mangez un roquefort, il a ce goût très particulier qui est dû à la présence de telles bactéries, de tels champignons hein, qui se développent dans les causes dans lesquelles on le stocke. Donc il y a vraiment l'idée selon laquelle le terroir vient nourrir et singulariser à la fois le produit fermenté que vous consommez, mais aussi votre intérieur, votre corps lui-même, puisque vos populations microbiennes qui sont en nombre, hein, c'est-à-dire que voilà, certains disent que le nombre de bactéries en vous excède le nombre de vos cellules. Donc en fait, finalement, on se rend compte que on peut nous définir davantage par ces populations qui sont de l'altérité, mais qui en même temps vous définissent, que par finalement ce codage assez pauvre que serait celui de l'ADN.
Est-ce que ça veut dire, et vous le dites un peu dans votre livre, qu'on n'est plus soi-même après avoir déféqué?
Oui, effectivement, je le dis dans le livre, c'est-à-dire que vous
se débarrasse d'une partie de ces bactéries.
Vous vous débarrassez d'une partie de cette altérité, mais en même
donc
temps
on est moins défini par elles.
Mais en même temps, ces bactéries, c'est aussi ce qui vous définit. Et moi, il me semble que dans cette fascination qu'on a pour les micro-organismes qui nous peuplent, je pense que ça révèle aussi beaucoup de choses sur notre rapport à la fois à l'humain, mais aussi à nos cultures, mais aussi à notre individu, parce qu'aujourd'hui, dans un monde en fait où nous sommes de plus en plus, nous avons le sentiment de plus en plus d'être répliqués et réplicables à l'infini, où l'on achète tous les mêmes meubles Ikea, mais aussi où l'on a l'impression finalement de pouvoir, enfin pas l'impression, on a peur à raison de pouvoir être cloné, de pouvoir être dupliqué justement à partir de notre programme génétique. On a l'impression finalement qu'on n'est qu'un programme informatique. Et encore plus avec le développement de l'irruption de l'intelligence artificielle, on a de plus en plus l'impression.
Il nous reste le microbiote pour nous distinguer.
Voilà, on a l'impression qu'on pourrait être remplacé. Et donc finalement, on recherche une forme de singularité par les tripes.
Eh ben, je vais sortir complètement transformé de cette émission. Vous parlez du rapport qu'il y a eu autrefois entre les sorcières et la fermentation, ça vient d'où ça?
Oui.
Pourquoi les sorcières sont-elles concernées plus que les autres femmes par la fermentation?
Alors je m'intéresse effectivement dans un chapitre à ce que j'appelle le féminisme fermenté, qui est un mouvement voilà qui pourrait étonner, parce qu'on pourrait se dire après tout les féministes aujourd'hui, les femmes fortes qui défendent la puissance sacrée des femmes ont autre chose à faire que se retrouver finalement dans la cuisine en train de faire des bocaux, voilà. Mais il se trouve qu'il y a, et je l'ai lu chez des militantes féministes de la fermentation, il y a tout un mouvement voilà, qui consiste à dire que se réconcilier avec le micro-vivant, c'est aussi une forme d'acte de performance féministe. Et il se trouve, alors je fais le lien avec les sorcières, pourquoi ? Parce qu'il y a un essai de Mona Chollet dont les gens avaient beaucoup parlé, qui était consacré à la puissance des sorcières. Et j'ai lu que Parce qu'il y a tout un mouvement qui consiste à réouvrir des micro-brasseries. Et il paraîtrait que les brasseuses, par le passé, les brasseresses qui faisaient la bière par le passé, auraient été, de même que les sorcières, forcées à abandonner cette activité au profit des hommes. Et voire même que les sorcières auraient pu être en grande partie des brasseuses, qu'il s'agissait finalement de ramener à leurs conditions de femmes, alors même qu'elles tiraient de la brasserie indépendante une forme de revenu, une forme d'indépendance, et que, comme les sorcières, donc elles auraient été harcelées et contraintes d'abandonner cette activité. Et il y a des militantes aujourd'hui qui considèrent que, de manière générale, la révolte féministe devrait prendre exemple sur finalement le bouillonnement fermentatif des bactéries. J'ai lu une autrice qui disait que les femmes étaient finalement enfermées, elles manquaient d'air sous le couvercle du patriarcat, et que c'était en faisant grouiller des bactéries et en faisant gonfler leur colère qu'elles finiraient par aboutir à une révolution constructrice.
Vous avez parlé à plusieurs reprises du yaourt, de toutes sortes de yaourts, mais en vous lisant Anne-Sophie Moreau, j'ai appris l'existence du vagi-yaourt. Qu'est-ce que c'est donc ? J'en avais jamais entendu parler.
Oui, je me suis beaucoup amusée en découvrant une anecdote qui semblera peu ragoûtante, peut-être pour vos auditeurs, mais c'est l'histoire d'une étudiante américaine, Cecilia Westbrook, qui s'est amusée à, ce qui avait défrayé la chronique à l'époque, qui s'est amusée à produire du yaourt en utilisant comme ferment un extrait de ses sécrétions vaginales. Et cette anecdote m'avait amusée d'abord parce qu'elle disait que ce qu'elle avait apprécié dans cette expérience, c'était de créer, non pas du yaourt, mais un ferment qui lui était propre. Voilà, donc on revient finalement à cette définition de l'identité par les tripes, de l'identité par les bactéries qui nous peuplent. Mais ce qui m'a interpellée aussi dans cette histoire, et d'où l'intérêt de faire le lien avec les luttes féministes, c'est que finalement c'est comme s'il y avait un retournement du stigmate associé au féminin. Parce que pendant longtemps, on a considéré la femme comme étant plutôt du côté du froid et de l'humide, pour reprendre les catégories aristotéliciennes qui ont été reprises par la théorie des humeurs et qui ont été analysées par l'anthropologue Françoise Héritier dans sa théorie de la différenciation entre hommes et femmes. Et donc pendant longtemps, on a associé finalement les femmes à ce qui dégénérait. D'ailleurs, les médecins se méfiaient du féminin. On avait toujours peur que les femmes soient putrides, soient porteuses de putréfaction. On avait une terreur finalement que la femme engendre la moisissure, et voilà, ce sont des interdits, des symboliques qu'on retrouve aussi dans la Bible. Il y a une terreur de la sécrétion féminine comme étant sale, mais comme étant en fait le point de départ de la désintégration du corps. Pourquoi ? Parce que la pénétration par l'altérité est le début finalement de la décomposition et de ce qui mène à la mort. Voilà, donc il y a une terreur du féminin qui est associée à la terreur des fluides et ces fluides féminins. Finalement, je trouvais ça intéressant qu'une femme veuille au contraire utiliser ces fluides et les utiliser comme un ferment, comme une matrice de la vie, pour essayer de retrouver une forme de puissance féminine qui ne soit pas ces liquides dégoûtants qu'il faudrait considérer comme repoussant.
Est-ce qu'on peut pas dire que Victor Hugo a été précurseur à propos de tout l'intérêt qu'il y a à exploiter davantage les déjections humaines? Vous citez un chapitre des Misérables qui s'intitule « L'intestin du Léviathan », dans lequel il dénonce le gaspillage de cet or fumier que constituent les déjections humaines. Je le cite « Tout l'engrais humain et animal que le monde perd, rendu à la terre au lieu d'être jeté à l'eau, suffirait à nourrir le monde. » Ce tas d'ordures du coin des bornes, ces tombereaux de boue cahotés la nuit dans les rues, ces affreux tonneaux de la voirie, ces fétides écoulements de fentes souterraines que le pavé vous cache, savez-vous ce que c'est ? C'est de la prairie en fleurs, c'est de l'herbe verte, c'est du serpolet et du thym et de la sauge, c'est du gibier, c'est du bétail, c'est le mugissement satisfait des grands bœufs le soir, c'est du foin parfumé, c'est du blé doré, c'est du pain sur votre table, c'est du sang chaud dans vos veines, c'est de la santé, c'est de la joie, c'est de la vie.
Oui, aujourd'hui, on s'intéresse à nouveau à la fange et à son
compost
et à son caractère fécond. Moi, ce qui me frappe, c'est de voir des amis, alors ce sont souvent ce qu'on appelle des bobos, évidemment, qui ont, voilà, qui habitent à Pantin ou ailleurs, et qui s'acharnent à vouloir mettre dans leur petit trois pièces un lombricomposteur. Vous voyez, ce qu'on considérait que, voilà, l'objet de dégoût ultime, les vers. Voilà, c'est-à-dire que pendant longtemps, on avait peur, surtout d'être rongé par les vers, et on ne voulait surtout pas les avoir dans son salon et encore ou dans sa cuisine. Et il y a aujourd'hui un regain d'intérêt, à la fois en agriculture, bien sûr, où l'on délaisse les intrants chimiques et le labour au profit de ce qu'on appelle l'agriculture de conservation, qui consiste à vouloir finalement mettre des couches de compost sur la terre pour pouvoir, au contraire, la nourrir, venir nourrir la terre de bactéries, de la même manière qu'on nourrit notre peau par des cosmétiques enrichis en micro-organismes. Et donc il y a toute une révolution par rapport au compost, où on se dit finalement que c'est de là que va renaître la vie dans un monde qu'on a largement abîmé.
Anne-Sophie Moreau, vous associez dans votre livre le fermenter au rejet de la verticalité. Et vous commentez notamment une phrase d'un livre célèbre de 1970, écrit par Deleuze et Guattari, « Mille plateaux ». Ils écrivent « Nous sommes fatigués de l'arbre ». Quel sens vous donnez à cette phrase,
oui,
à la lumière de ce que vous avez décrit là?
Oui. En fait, je discutais avec un designer à Chicago à l'occasion du congrès de la fermentation qui existe.
Ah, ça existe aussi.
Oui, et qui m'expliquait qu'il produisait des meubles à partir de mycélium, qu'il voulait remplacer le bois par du mycélium, qui est cette partie souterraine des champignons. Le mycélium, c'est en fait les champignons. Ils sont constitués à 99% de leur partie souterraine. Ce que vous voyez lorsque vous voyez des champignons, lorsque vous allez aux champignons en forêt, ce que vous voyez sortir et ce que vous utilisez pour vos poêlés, ce ne sont que les organes sexuels des champignons. Voilà, tout le reste de leur organisme se développe sous terre.
Comme les icebergs avec l'eau.
Voilà. Et ce qui est fascinant, c'est que ce mycélium, et ça a été beaucoup étudié récemment, ce mycélium favorise la communication, ou favoriserait la communication entre eux, les différents individus, les différents arbres et plantes, mais aussi entre les différentes espèces. Alors, il y a eu beaucoup de théories un peu exagérées d'ailleurs, hein, qui ont été énoncées autour de cette forêt d'Éden collaborative qui serait le nouveau paradigme dont on devrait s'inspirer. Et qui consiste à dire finalement que la nature n'est pas régie par une compétition effrénée comme on l'avait déduit des théories, non pas des théories de Darwin, mais des théories darwinistes du darwinisme social, qui consistait à dire, voilà, que la société ne pouvait finalement grandir et avancer que par la lutte du plus fort, pour la survie du plus fort, et qui consiste à dire que au contraire, on ne s'en sort finalement que par une coopération, une entraide souterraine. Et moi, ce qui me frappe là-dedans, et ce que j'entends aussi beaucoup dans le discours des gens qui produisent des produits fermentés, c'est qu'il s'agit d'échapper finalement à la verticalité du système de distribution, à la verticalité des échanges marchands, à la verticalité des hiérarchies. Et il me semble qu'il y a partout dans notre société des micro-signaux qui nous montrent que nous en avons assez finalement de cette verticalité généralisée. Alors lorsque Deleuze et Guattari disent qu'ils en ont assez de l'arbre, ils critiquent à la fois la hiérarchie des connaissances, l'arbre de la connaissance selon Descartes. Il critique bien sûr aussi les hiérarchies de pouvoir, l'organigramme de l'État, mais aussi des entreprises. Et aujourd'hui, ce qui est frappant, c'est que on essaye partout de mettre à bas les organigrammes. Voilà, en entreprise, on fait du management horizontal et non plus vertical. La notion d'ambition est de plus en plus tabou. Voilà.
Est-ce qu'on pourrait pas dire aussi que le mouvement général que vous décrivez dans votre livre, c'est-à-dire ce qui fait que le fermenté a fini par avoir la cote, c'est pas la revanche ou même la victoire de la biologie sur la physique.
Oui.
Parce que finalement, avec Galilée, il y a l'idée, avec Descartes aussi, que l'homme est un être d'antinature. Il est transcendant par rapport à la nature, il lui échappe parce qu'il la comprend. Et en fait, on est en train d'en revenir un petit peu.
Oui.
Non pas qu'on soit contre la nature, mais au sens où la séparation qu'on a établie entre elle et nous est beaucoup plus poreuse que ce qui avait été imaginé.
Bien sûr, c'est-à-dire que nous nous considérons de plus en plus, comme je vous le disais tout à l'heure, comme un holobionte. Voilà, c'est-à-dire que notre individu, notre espèce même, sont pétris d'altérité. Et nous nous considérons comme faisant partie d'un grand tout et non plus comme étant finalement capables de surplomber une création que nous pourrions... maîtriser. Et donc évidemment, je dirais qu'on a fait le deuil de cette idée selon laquelle nous pourrions finalement ordonner la nature, ordonner un fonctionnement de la nature qu'on pourrait isoler, observer et dont on pourrait maîtriser tout le fonctionnement matériel, puisque justement la nature ne se résume pas à un fonctionnement matériel. Et je décèle aussi dans ce il y a ce constat qui est évident, mais il y a aussi, je dirais, une tendance aussi au renoncement que je trouve, en revanche, un peu dangereuse, puisque lorsque je parle de cette obsession de l'horizontalité, ce deuil de la verticalité, j'observe aussi, par exemple, en urbanisme, vous voyez, le fait que, de plus en plus, on cherche non plus à ériger des tours, mais à recouvrir les bâtiments de mousse, de lichen. À Paris, par exemple, il y a tout un plan mare qui consiste à réintégrer des mares dans les parcs, des mares qui étaient avant considérées comme des objets de dégoût. Il fallait assainir les milieux humides par le passé. Aujourd'hui, on cherche à les réintégrer. Et de manière générale, on voit aussi dans toute l'imagerie, par exemple, de la science-fiction, des séries comme The Last of Us, par exemple, où l'humanité est contaminée par un champignon, où l'on voit finalement les villes être recouvertes d'une nature sauvage qui viendrait reprendre ses droits. Je vois aussi parfois poindre une sorte de fantasme qui consisterait à se dire la nature et son caractère le plus pourrissant va venir nous recouvrir, va venir finalement décomposer, putréfier les restes de notre civilisation que nous considérons en partie à raison comme néfaste, et c'est comme si finalement nous étions en train de fantasmer non plus notre fusion, mais notre dissolution dans la nature.
Si je vous comprends bien, Anne-Sophie Moreau, ce goût pour le fermenter, c'est un désir de vie mélangé à une pulsion de mort.
Bien sûr.
C'est-à-dire, pour boucler sur l'introduction, une sorte de chat Schrödinger existentiel. Merci à vous d'être venu à la conversation scientifique. Je recommande la lecture de votre livre qui s'intitule « Fermentation au pluriel » avec comme sous-titre « Kéfir, compost et bactéries. Pourquoi le moisi nous fascine ?» C'était la conversation scientifique par Étienne Klein. Une émission réalisée et mise en onde par Souad Boukorsa avec Thierry Bouchamp qui est notre attaché de production.